Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Aux États-Unis, aujourd'hui, on fait des films sur des icônes comme Martin Luther King. Parce qu'il y a une soixantaine d'années, aux États-Unis, des gens ont lutté contre toute forme de discrimination. Aux États-Unis, aujourd'hui, ils ont un président noir qui appelle au calme et à la retenue quand les citoyens américains se révoltent face à l'impunité dont bénéficient certains auteurs de meurtres raciaux. Parce qu'aux États-Unis, il y a des policiers qui abattent des personnes noires sans être condamnées. Ça a été le cas pour celui qui a tué Michael Ferguson, ça a aussi été le cas pour celui qui a tué Eric Garner, ça a encore été le cas pour celui qui a tué Trayvon Martin. Hier, aux États-Unis, des policiers de Los Angeles ont abattu un sans-domicile fixe après une vive altercation, selon un journal local. Une vive altercation, c'est-à-dire 5 policiers luttant avec un homme à terre, puis 5 tirs de pistolet pour régler l'affaire. Voilà. Dans les rues de Los Angeles, la victime, puisqu'il s'agit bien d'une victime, n'est-ce pas, était surnommée Africa. Mais de là à faire le lien avec un nouveau crime racial, hein.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, vers 19h30, vous entendrez Antoine Guilmaud de l'association À l'art libre, une association qui diffuse les arts de la rue dans le Haut-Anjou. Ce sera juste après la chronique Lance-Torpille de Yann, qui n'est pas content. Mais d'abord, ils ont entre 19 et 31 ans et sont en charge des relations entre Angers et Pise, Osnabrück et Vigane. Comme tous les mois, nous accueillons les ambassadeurs des villes jumelées avec Angers.
Mesdames, messieurs, les ambassadeurs.
Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison.
Nous nous retrouvons pour cette conférence.
Un goût raffiné qui charme toujours les invités.
Qui est devenu un rendez-vous incontournable, un rite.
Welcome.
Benvenuto.
Welcome.
Bonjour Laetitia.
Bonjour Sifène.
Ambassadrice pour la ville de Pise en Italie. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Ambassadeur pour la ville d'Osnabrück en Allemagne. Oui. Et enfin, bonjour Nina.
Bonjour.
Ambassadrice pour la ville de Wigan au Royaume-Uni. Comme à chaque fois, on va commencer par un tour de table avec l'actu qui fait la une dans vos pays respectifs. Laetitia, on commence par toi.
Oui, alors aujourd'hui l'actu viendra de Pise, donc
ta ville.
Directement de ma ville. Samedi 28 février, Pise s'est réveillée avec une bannière de 600 mètres carrés avec le dessin d'une famille traditionnelle qui a été étendue sur le gazon en face de la cathédrale, dans la place des Miracles.
Une famille traditionnelle, c'est-à-dire
famille traditionnelle pour la manif pour tous. C'est un maman, une maman, un papa et deux enfants.
Comme on a pu voir en France
voilà.
Dans les manifestations.
Donc c'est la même, voilà, c'est la même image en fait, blanc sur fond rose. Et en fait, c'est un geste qui suit un mois de polémiques. Qui ont animé la scène politique et, voilà, et le public aussi de Pise, puisque fin janvier à Pise a été organisée une assemblée citoyenne sous le nom de Éduquer aux différences, qui a été organisée par la Maison de la Femme, par plusieurs associations LGBT de Pise et aussi par la ville de Pise. Donc on a eu des retours assez violents et polémiques par rapport à cette assemblée, et ça, ce geste, ouais, ça arrive à la fin de ce mois un peu controversé sur les thèmes de la sexualité, de l'éducation aux différences et aux différences de genre.
Parce qu'en Italie, vous avez comme en France un mouvement de la manif pour tous.
Oui, voilà, il y a des gens qui sont inspirés de la manif pour tous et qui, voilà, c'est des exponents de la manif pour tous du mouvement en Italie.
Et ce qui fait polémique depuis un mois, c'est ce qu'on appelle, ce qui se fait appeler la théorie du genre, avec
ouais,
plein de guillemets.
Oui, tout à fait. Ouais. Il faut dire plein de guillemets. Et voilà, c'est la peur de, voilà, de révolutionner l'esprit des enfants avec la théorie du genre. Et c'est des gens qui réagissent très très mal à ça et qui voilà qui prennent l'initiative de comme cette initiative voilà de la Pise.
Et juste pour situer un petit peu la manif pour tous, le mouvement de la manif pour tous en Italie, il est vieux de quand?
Bah, la manif pour tous c'est lié au mouvement français. En Italie, on a eu le mouvement des sentinelles. On ne sait pas si on peut dire ça en français. Donc, un mouvement des gens qui s'installent dans des places de ville en lisant des livres en silence pour protester contre cette libéralisation ou cette excessive liberté de mœurs. Par rapport à la sexualité et au mariage homosexuel, notamment au mariage homosexuel.
Ce qui peut rappeler aux Français le mouvement des veilleurs qu'on a eu également.
Voilà, c'est tout à fait le même principe.
Bon, d'accord. Bon courage. Ouais. Nina, au Royaume-Uni, qu'est-ce qui fait l'actualité?
Oui, en ce moment, on se prépare pour les élections générales. Ça va être le moment où le prochain Premier ministre est choisi. Alors maintenant, le thème chaud, c'est les frais pour l'université, pour faire les études à l'université. Alors en ce moment, ils sont 9 000 livres sterling chaque année, ça veut dire 11 000 euros chaque année pour chaque étudiant. Et voilà, évidemment, c'est très très élevé, mais...
pour tous les étudiants,
c'est pour tous les étudiants, oui. Mais ce qui se passe normalement, c'est que les étudiants ont des bourses et après, ils vont le payer quand ils travaillent. Il faut avoir un salaire, je sais pas, le salaire de base pour le payer. Mais alors, le débat, c'est que baisser le frais des études maintenant pour bénéficier les étudiants pendant leurs études. Ou il y a certains qui disent que dans 20 années, ça va bénéficier que les banquiers, les personnes qui sont avocats, qui ont un salaire très élevé, parce que les autres auront toujours cette dette presque pendant tout le parcours professionnel. Et c'est très lourd pour eux. Alors voilà, c'est ou une solution au court terme ou au long terme. Ça, c'est le débat.
Le débat en vue donc des élections générales qu'on lui en met.
Oui, c'est ça.
Dont on reparlera ici.
Ok. Ouais.
Yannick, en Allemagne, l'actualité.
Oui, l'actualité, c'est la menace des attaques terroristes en Allemagne. Il y avait déjà à Dresde et à Braunschweig des menaces terroristes. Et maintenant, ce week-end, il y avait une menace terroriste à Brême.
Brême, oui. Qui est à 140 km d'Osnabrück, tu l'as dit tout à l'heure, donc je le précise pour resituer aux auditeurs.
Oui, c'est vrai. Et donc, il y avait une menace, il y avait un Libanais qui était... la police a observé cette personne et il a fait des commerces avec des armes de guerre illégales et... On a dit qu'il a transféré aussi des armes aux islamistes. Et donc, il y avait une menace, il y avait une perquisition, on dit ça, sur son lieu de travail et dans son appartement, mais on n'a rien trouvé. Mais il y a le ministre des Affaires intérieures, M. de Maizière, il a dit que l'Allemagne, c'est vraiment une cible des menaces terroristes ou djihadistes. Et donc comme ça, il y a vraiment on se sent un peu, c'est un sentiment bizarre en France, mais...
Psychose un peu.
Oui, mais c'est un peu dans tout le monde aujourd'hui, malheureusement. Et donc, on va voir que si un jour il va être une menace, une attaque terroriste, mais on n'espère pas.
Mais c'est... Laetitia, Nina, c'est un sujet qui fait l'actualité aussi, j'imagine, dans vos pays. Peut-être cette menace qui pèse, cette psychose.
Oui, bien sûr. Il y a forcément, chaque semaine, il y a une nouvelle sur ce thème-là. La semaine dernière, il y avait trois filles de Londres, trois adolescentes, qui ont voyagé en Syrie parce qu'ils étaient radicalisés. Aussi, il y avait un djihadiste qui a tué quelqu'un, qui va peut-être être envoyé en États-Unis pour recevoir la justice. Alors, c'est compliqué, c'est très chaud en ce moment.
Laetitia.
Oui, le ISIS a déclaré Rome. Enfin, ils ont déclaré guerre à l'Europe aussi. Donc, ils ont dit, on est au sud de Rome, on est en train d'arriver. Il y a eu un phénomène sur Twitter des Italiens qui ont dit il y a quand même des bouchons, donc vous allez mettre un peu de temps pour arriver à Rome. Enfin, ils ont répondu avec des blagues. Donc oui, c'est une menace, mais finalement, je pense qu'on n'est pas si préoccupé que ça, heureusement. Et je pense que Abba Apise, cet événement du 28 février, vers la manif pour tous, ça s'est passé dans un lieu qui est censé être l'une de cibles des terroristes, mais 600 mètres carrés de bannière, ça prend quand même un peu de temps pour le duplier, donc ça pose des questions sur.
On va écouter le choix musical de Nina, qui est très fière ce soir de nous faire écouter George Formby, comme ça qu'on dit.
Oui, George Formby, le musicien de Wigan. Dans les années, des années 30 à 50, il joue le ukulele. Et cette chanson, c'est ce qu'il voit quand il nettoie les fenêtres des maisons. C'est comédique.
Now I go window cleaning to earn an honest bob. For a nosy parker, it's an interesting job. Now it's a job that just suits me. A window cleaner you would be if you can see what I can see. When I'm cleaning windows, honeymooning couples too. You should see them villain coo. You'd be surprised at things they do. When I'm cleaning windows, in my profession I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. The blushing bride, she looks divine. The bridegroom, he is doing fine. I'd rather have his job than mine. When I'm cleaning windows, there's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows, she pulls her hair all down behind, then pulls down her never mind, and after that pulls down the blind. When I'm cleaning windows, in my profession I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. An old maid walks around the floor, she's so fed up, one day I'm sure she'll drag me in and lock the door. When I'm cleaning windows,
le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Avant, dans les publicités pour le lait bio, les filles comme moi, on les voyait toutes nues. Les pauvres. Le bio, c'était trop cher pour s'acheter des habits.
Avant, les accros du bio, ils avaient que des amis animaux. Et le bio, c'était souvent trop cher pour inviter des amis.
Publicité pour une grande enseigne de centres commerciaux. Nous sommes avec nos trois ambassadeurs des villes jumelées avec Angers, Laetitia pour Peace, Yannick pour Osnabrück et Nina pour Wigan. Et ce soir, on va donc causer bio, agriculture biologique, mode, loi. Bref, en Europe, où est-ce qu'on en est avec le bio selon les pays ? À la fin du salon de l'agriculture en France, il était temps d'en discuter. Alors en Europe, le bio, c'est un label avec cette jolie feuille verte constituée d'étoiles, les étoiles de l'Union européenne. C'est très poétique. En France, on a aussi l'étiquette AB pour agriculture biologique. Malin. Et vous, dans vos pays, comment est-ce qu'on les reconnaît, les produits bio, Yannick ?
Alors, en Allemagne, nous avons naturellement aussi le label bio de l'Union européenne. Mais depuis septembre 2001, il existe aussi un symbole étatique qui marque les produits qui correspondent aux directives du label bio de l'Union européenne. Et ça donne un peu l'orientation pour les consommateurs qui achètent des produits bio, pour qu'ils savent, c'est bien bio, c'est selon les directives qui ont été faites par l'Union européenne. En plus, il y a beaucoup de produits qui portent également des signes ou des symboles des associations ou des organisations qui s'occupent de l'agriculture biologique et qui marquent les produits qui correspondent aussi aux directives.
Directives.
C'est compliqué. Richtlinien, c'est... c'est plus simple. aux directives de leur organisation. Et donc, quand on voit beaucoup de symboles des associations, des organisations qui s'occupent de bio, on voit, ah oui, c'est bien bio, c'est un produit qui était produit selon
Les règles.
Les règles.
Ça veut dire qu'il y a plein de labels différents, puisque oui. Tu dis qu'il y a plein d'associations différentes qui s'en occupent.
Et en plus, il y a la Stiftung Warentest, ça c'est un institut qui fait des contrôles de toutes les choses alimentaires et aussi des choses normales. Et ils font souvent des contrôles par rapport à la qualité des produits bio. Et ils font des contrôles que c'est bien bio et quand on fait bien attention que...
On va bien manger vert.
Oui, oui, c'est ça.
Nina, en Angleterre, comment on fait pour savoir qu'un produit est bio ou pas?
En Angleterre, c'est pareil. Je pense qu'il y a le symbole européen, mais aussi il y a plusieurs associations qui font le contrôle. Bon, ils sont forcément plus adaptés au marché en Royaume-Uni. Il y a Soil Association, il y a une association de food standards, les standards de nourriture. Il y a aussi le département de la gouvernement pour agroalimentaire en Angleterre, mais ça c'est plutôt de l'État qui fournissent les gens avec des renseignements. Mais c'est plutôt les associations qui font les autres labellisations.
Laetitia, en Italie, comment ça se passe?
C'est pratiquement le même système qu'en Allemagne ou en Angleterre. Donc, il y a le logo européen, donc, qui est obligatoire. On y ajoute le code de l'organisme de contrôle. Donc, l'Italie se sert à autoriser des organismes de contrôle privés qui font le contrôle sur les produits et qui donnent un code pour chaque opérateur biologique qui doivent être présents dans le même camp visuel du logo européen. Et il faut aussi qu'il y ait le lieu de production de la matière première. Donc ça peut être européen, non européen ou mixte, selon, voilà. Et à tout ça s'ajoute aussi le logo de l'AIAB, qui est l'association italienne pour l'agriculture biologique, qui compte environ 7000 associés et qui est donc qui donne un logo de garantie plus exclusive du logo européen. Donc en fait, l'AIAB, on va dire, donne des directives plus strictes qui comptent, on va dire, voilà, par exemple, l'entreprise ne peut pas être mixte, donc ne peut pas produire du bio et du non bio. Il n'y a pas de dérogation pour l'alimentation des animaux. Et seulement, la matière première peut être seulement produite en Italie. Donc voilà.
Alors, avec 1,1 million d'hectares consacrés à l'agriculture biologique, la France vient de doubler l'Allemagne, et devient numéro 3 de la bio en Europe. À cela, le marché français de la consommation bio atteignait en 2014 5,5 milliards d'euros, soit plus de 10% par rapport à l'année précédente. Vous, chez vous, où est-ce que vous en êtes avec le bio, tant en termes de... d'agriculture, de terres consacrées à l'agriculture biologique, et puis en termes de consommation aussi, d'économie.
Ouais.
Laetitia.
Alors l'Italie a une surface assez importante parce que ça fait 1,3 million de hectares. Et par rapport à fin 2013, par rapport à 2012, il y a eu une croissance de 12%. De la surface cultivée selon les directives biologiques. Donc c'est très important. La Sicile et la Calabre, c'est les régions qui produisent le plus de produits biologiques. Et sur 8000 communes en Italie, environ 60% accueillent au moins une entreprise agricole qui adopte les directives du bio.
Nina,
En Angleterre, c'est un peu l'inverse. La tendance, c'est de baisser la consommation, la surface dédiée à l'agriculture bio. En fait, les chiffres du Soil Association, ça, c'est l'organisation fondée en 1946 par les agriculteurs. Les chiffres montrent qu'il y a une baisse, en fait, significative. D'enthousiasme en Angleterre du côté producteur et consommateur. Et en fait, il y avait une baisse de vente de produits biologiques de 5,9% en 2010. Et ça continue à descendre.
Comment ça se fait?
Comment ça se fait?
Pourquoi est-ce que ça diminue?
Pourquoi? Ça dépend. Il y a plusieurs théories. C'est peut-être parce que le gouvernement ne finance pas trop le Soil Association. Et c'est une des plus grands acteurs. Et par conséquent, ils ont arrêté, ils ont découragé, ça a découragé plusieurs producteurs. Il y a moins de demande dans les grandes surfaces, par exemple, il y a moins de chiffres de consommation en descente. Voilà, aussi, pour le service dédié à l'agriculture biologique, il y a 2/3 de moins de terres en conversion en Angleterre. Depuis 2010 aussi. Alors, voilà. C'est la même chose.
Yannick, en Allemagne, comment ça se passe?
Alors, en Allemagne, en 2013, il y avait 7,7% d'Allemagne qui était cultivée par l'agriculture biologique. Et ça a fait 1 million d'hectares. Bon, et
t'es un peu jaloux de nous, c'est ça? Un peu jaloux qu'on soit
passé. Un peu, mais je suis sûre que ça va s'améliorer. Hein. On va en parler. Hein. Et en 2012, il y avait 3,9% de tous les alimentaires vendus étaient bio. Et de janvier à septembre 2006, un peu vieux, les ménages privés ont redoublé leurs dépenses pour des produits bio d'environ 17%. Et on peut dire que l'attractivité des produits bio monte de temps en temps.
Alors, des ménages qui consomment bio, d'accord, mais il faut avoir les moyens, puisque selon une étude de 60 millions de consommateurs, la nourriture bio coûte 65% plus cher qu'une nourriture qui ne serait pas bio. Voilà donc ma réponse. Qui mange du bio dans vos pays respectifs? Et on va commencer par vous. Laetitia, oui. Tu manges bio, toi?
Alors, oui, parfois. Surtout, chez moi, mon père avait cultivé des légumes. Donc, on avait un espace pour. Et donc, j'ai mangé du bio à coût presque zéro, ce qui est le mieux. Et oui, on dirait que voilà, une alimentation assez mixte.
Et en Italie, alors qui est-ce qui mange bio?
Et en Italie, qu'est-ce qui mange bio? Alors en Italie, pour ce qui concerne la consommation, l'impact économique, c'est d'environ 3 milliards pour consommer en Italie et aussi exporter à l'étranger. Et dans les biorapports de l'INEA, l'Institut National d'Économie Agraire de 2013, ils ont enregistré une hausse de la consommation du 9%. Donc ça veut dire que les Italiens consomment plus bio. Qui consomme bio? Alors le type bio, c'est normalement quelqu'un qui habite au centre nord et au nord de l'Italie. Donc comme je disais tout à l'heure, la majorité de la consommation se fait au sud, donc en Sicile et en Calabre. Mais les centres de transformation pour avoir les produits finaux bio sont plutôt en Toscane et en Émilie-Romagne. Donc cela veut dire qu'il y a déjà une migration au niveau dans la chaîne de distribution qui monte vers le nord. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un... Je pense qu'au sud, on mange du bio, mais justement grâce à la vente directe ou à la production et consommation dans le même cadre. Voilà,
Il n'y a pas d'intermédiaires.
Voilà, il y a moins d'intermédiaires que dans le nord. Dans le nord, c'est plutôt... c'est une région plus industrielle, donc il y a moins d'espace aussi pour les gens pour cultiver. Et voilà.
Yannick, en Allemagne, qui mange bio? Est-ce qu'il y a un profil type?
Oui, alors la plupart, ce sont des femmes, avec 2/3. Et ce sont souvent aussi des familles avec des enfants ou des familles où il y a des enfants qui n'habitent plus à la maison, qui sont déjà grands. Et il y a une tendance que plusieurs jeunes achètent du bio. Et il y a aussi des cibles de l'agriculture biologique et de l'environnement ne sont pas si importantes comme les intentions personnelles, ce que je voulais dire. Alors, c'est pour la plupart des gens qui achètent le bio en Allemagne, c'est pas la chose la plus importante. Que c'est alors les choses les plus importantes, ce sont la fraîcheur, le goût et la santé. Et donc ça, je voulais ajouter.
Nina, le profil des gens qui achètent bio en Angleterre, est-ce qu'ils rejoignent celui de des Allemands que vient de décrire Yannick?
Je pense que c'est un peu particulier parce qu'il y avait une marque très connue en Angleterre de nourriture bio, c'était Dutchy Originals, qui était fondée en 1990 par le prince Charles. Alors...
Le prince Charles.
Non, il a fait beaucoup de choses bien pour la campagne et aussi pour l'agriculture. Cette marque, c'était vendue que dans les supermarchés d'haut de gamme pour les familles de classe moyenne. Et il y a toujours des radicales comme Vivienne Westwood qui a dit des choses un peu polémiques comme les gens qui n'ont pas l'argent pour manger bio doivent manger moins.
Merci Vivienne Westwood.
Merci Vivienne Westwood. Oui, mais en fait, aussi, c'est plus facile pour les personnes qui vivent à la campagne, qui ont plusieurs revenus, d'aller acheter directement de la ferme, par exemple. Mais c'est forcément, si tu habites dans la ville, il n'y a que les supermarchés, c'est moins évident. Mais c'est en train de changer, mais peu à peu.
Quels enjeux pour l'agriculture biologique dans les années à venir? Alors, on ne va pas lancer un grand débat maintenant, étant donné qu'on va être honnête, il nous reste 2 minutes. Mais quelles questions on peut se poser sur toute cette agriculture biologique pour les années à venir? Est-ce que c'est une mode qui va s'estomper? Est-ce qu'il y a de la... Quelles questions on devrait se poser? Laetitia?
J'y vais avec la question. C'est un secteur qui est plus jeune par rapport au secteur de l'agriculture non bio. Donc, je pense que ça serait plutôt un secteur qui va grandir. Il y a le 22% de chefs d'entreprise en Italie, enfin d'entreprises agricoles bio, ont entre 20 et 39 ans. Donc, ça veut dire que voilà, c'est un secteur qui intéresse beaucoup les jeunes. Et je pense que juste pour cette raison, ça aura un futur. En plus, en Italie, c'est la question aussi du... de l'écolocalité, on peut dire ça.
Locavore. Locavore. En fait, ouais. Donc, le fait de manger ce qui a été produit pas loin de chez nous.
Voilà. En italien, à partir de 2009, on a des biodistricts, des régions où les communes, les restaurants, les opérateurs touristiques et les producteurs, les agriculteurs s'engagent à diffuser et consommer les produits. Donc je pense que c'est une tendance qui a un grand futur parce que voilà.
Pour moi, la question en Angleterre, c'est qu'est-ce qu'il va faire le gouvernement pour financer le secteur biologique en Angleterre, pour démocratiser un peu la consommation du bio.
En Allemagne, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui achètent ça aujourd'hui. Alors, c'est vraiment c'est en vogue chez nous. Il y a beaucoup de végétariens aussi, vegans, beaucoup de personnes aussi de mon âge achètent plutôt le bio. Et mon expérience personnelle, c'est que j'ai travaillé dans un service de restauration bio. Donc comme ça, j'ai fait déjà des expériences avec ça et c'est vraiment en vogue la nourriture bio.
Ça a de l'avenir donc.
Oui.
On va conclure cette discussion là-dessus. On va juste dire que, chers ambassadeurs, puisque l'année la fin d'année, vous allez
finir
votre contrat
fin septembre.
Ouais. Eh bien, on cherche déjà vos successeurs et ça, c'est triste et en même temps, il faut le dire.
Oui.
Donc, comment on fait? Faut aller sur le site internet de la mairie d'Angers pour se renseigner.
Tout à fait. Il y a tout l'appel. Il y a l'annonce qui est déjà sortie. Et donc, vous pouvez vous renseigner, envoyer des mails aux adresses que vous trouverez.
Très bien. Voilà. Laetitia, on va écouter Cornflakes.
Voilà, Cornflakes ou à l'italienne Cornflakes.
Pardon.
par les Etruschi from la Cota. C'est un groupe de Monte Castelli Pisano, en province de Pise, qui chantent une chanson sur, justement, ils sont des locavores.
Oui, c'est
qui
ça.
Qui aiment bien les produits de leur coin.
On écoute ça. Merci beaucoup.
Merci aussi.
Ah. La mia generazione è attratta dall'Inghilterra, ma io preferisco il profumo della mia terra. Seminando fiori, erba e patate, vi mando a voi nella terra dei conflakers. I conflakers! Quando siete là, gridate alla fame, perché nella vostra bocca non c'è più il vostro pane. Il pane quotidiano farcito con patate, no, quello prodotto con gli scarti dei conflakers. I conflakers! Nella loro mente si credono anche artisti, e tu che fai finta di suonare la chitarra per far sembrare in Italia che sei stato in Inghilterra con i
Non siete più italiani, siete travestiti da miseri forestieri. Le vostre lingue sembrano bucce di patate, mi state vomitando nel mio campo di carote.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est lundi, il est 19h30, figurez-vous que c'est l'heure de retrouver la chronique Lance Torpille de Yann. Salut Yann.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Noir et bleu, blanche et or, on s'en branle, vous l'aurez compris. Ce soir, je ne parlerai pas du bad buzz inutile faisant débat auprès des internautes depuis mercredi dernier, la robe qui change de couleur. Fini la sextape de Paris Hilton, le boutillasse dénudé de Kim Kardashian ou encore les photos porno volées de Jennifer Lawrence, la machine internet a vomi une nouvelle fois le truc le plus hardcore trash pour te scotcher derrière ton écran. Oh my god! C'est à désespérer de tout lorsque notre perception diffère déjà dans la couleur d'une robe, alors que dire des choses tellement plus compliquées et complexes du monde et de la société? Si le débat est inutile, essayons de réfléchir à ce que cette photo peut traduire. Par exemple, la relativité de notre perception au monde d'une manière générale. Il ne suffit pas de dire que la robe est bleue pour qu'elle le soit, mais également accepter et reconnaître que la robe peut être blanche et or pour d'autres, et ainsi que la diversité fait la richesse de l'homme face à l'illusion de nos certitudes. Faut-il aller vers une plus grande légèreté ou s'occuper des choses sérieuses ? Ce sont les deux faces de la même réalité.
Tiens, il y a de la philo dans ta minute démago maintenant, Yann.
J'essaye d'élever le niveau de mes torpilles, madame. Pour tout vous dire, la minute démago, c'est plutôt maintenant. Ce soir, je ne parlerai pas de toute la vie. Mettant en parole un dialogue entre nouvelle et ancienne génération, la nouvelle chanson des enfoirés tente de s'adresser à la jeunesse sous des airs à peine moralisateurs. C'est ce qu'on appelle donner une leçon. Mais oui, allez les jeunes, allez travailler, soyez heureux puisque vous êtes jeunes. Allez, bougez votre cul de jeune, arrêtez de vous plaindre même si une personne sur 5 sortie de formation depuis 3 ans est au chômage. Je crois que comparé à Muriel Robin ou Calogero, Monsieur Tout-le-Monde qui est au Chemdu et qui va chercher sa bouffe au Resto du Cœur doit trouver ça hyper cool de s'entendre dire qu'il fallait se bouger pour trouver du travail. Comment des nantis qui ne manquent de rien, loin des problèmes quotidiens, peuvent-ils se permettre de critiquer la jeunesse en logique perte de repères? Mais surtout, quel est le fucking rapport avec les Restos du Cœur?
Il y avait peut-être un bon fond dans tout ça, tu sais.
Et tu as sans doute raison, un peu comme un coach sportif qui vous fait mal, mais au fond, qui vous veut du bien. Mais bon. Ce soir, je ne parlerai pas de l'assassinat de Boris Nemtsov. Sale temps pour les opposants, même les meilleurs stratèges sont tenus en échec et laminés par un exécutif qui exécute ou qui fait exécuter les ordres, et bien plus si besoin, avec une détermination qui fait froid dans le dos. Nemtsov ne subira plus les incarcérations arbitraires et les interminables tracasseries administratives, puisque on lui a fait avaler son bulletin de naissance. Al Kaponovitch, plus connu sous le nom de Vladimir Poutine, la petite frappe devenue grande, jure qu'il fera toute la lumière sur ce crime, et on peut bien évidemment le croire sur parole. La justice, quand ce n'est pas lui qui l'applique, ce sont les siens, et ils savent si bien la rendre. Mais rassurons-nous sur un point, si la Russie ressemble tant au Chicago des années 30, c'est bien la preuve que nous sommes sur la voie d'une démocratie à l'américaine.
Alors on a bien compris de quoi t'allais pas nous parler, maintenant on aimerait peut-être savoir de quoi tu vas nous parler.
Ce soir, j'ai donc décidé, une fois n'est pas coutume, de vous parler d'un élu Front National qui a, une fois n'est pas coutume, dérapé telle une chaussure glissant sur l'étron d'un chien malade. Louis Noguès a, lors du conseil municipal du Mans mercredi dernier, comparé homosexualité et zoophilie. Alors qu'une élue, Marlène Schiappa, adjointe au maire chargé de l'égalité et des luttes contre les discriminations, défendait l'actualisation de la charte LGBT, Louis Noguès a lancé, je cite, « Vous défendez l'homosexualité et la bisexualité, vous êtes la main du lobby LGBT, à quand une délibération sur la zoophilie ?» Parce que cela revient au même quand même. Rappelons tout d'abord que Louis Noguès est un ancien du bloc identitaire, groupuscule fasciste et nationaliste. Une nouvelle preuve, encore une fois, que le FN est un parti respectable. Pourquoi personne n'a l'air de me croire? La vérité, c'est qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'un élu ou un candidat Front National ne se fasse remarquer pour ce genre de déclaration abjecte. Pourtant, on va encore venir nous dire que si on en parle, ce n'est que parce que c'est le Front National, qu'il s'agit encore de diaboliser le parti, que c'est une déclaration isolée, que les cadres ne savaient pas, que c'est pas moi, que c'est pas lui, que c'est lui, que c'est moi, etc., etc. Mais aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai tout de même trouvé une qualité, oui, une qualité au Front National. Le Front National fait œuvre sociale. Oui, oui, vous avez bien entendu, fait œuvre sociale. À tous ceux qui, jusqu'à présent, avaient peur d'exprimer leurs idées parce que trop nauséabondes, le Front National leur permet maintenant de faire leur coming out. Ils peuvent non seulement ouvrir leur placard xénophobe et homophobe, mais en plus être élus et croire qu'ils font de la politique, n'est-ce pas Antoine Ormain ? Rappelons tout de même que logiquement, une personne extrémiste a des propos extrémistes et sans retenue peut avoir des actes extrémistes aux conséquences extrêmes. C'est tout pour moi ce soir, restons unis face à la décadence et à la semaine prochaine.
Merci Yann, à la semaine prochaine.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonjour Antoine Guillemot.
Bonjour Tiffaine.
Tu fais partie de l'association À l'art libre qui est née il y a 4 ans à Poincé. Alors Poincé, pour ceux qui ont besoin de réviser leur géographie départementale, c'est à la frontière du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de l'Ille-et-Vilaine. C'est un peu un point névralgique quoi. Ouais. Non, en fait Poincé c'est un peu plus de 3000 habitants et c'est là que vous avez décidé en 2011 de lancer un festival. Pourquoi? Avec quel objectif?
Alors à l'époque on était 4 copains. Et l'objectif, c'est un peu né comme ça d'une discussion entre deux de ces quatre copains. Et on s'est dit, tiens, il se passe plus rien dans notre canton, dans notre village, et on a envie d'y amener quelque chose. Et nous, on avait grandi avec un petit festival qui s'appelait Les Moissons Rock, et on avait envie de ramener quelque chose en lien avec le culturel. Et un peu comme ça, on s'est dit, bah tiens, on va faire une balade culturelle, et donc on va amener des spectacles sur les lieux patrimoniaux du village, dans le but de les revaloriser. Et donc voilà comment est née la première édition Poincée à la rue, en 2011.
Ça fait un petit peu écho à l'histoire de Traquenard à Douai-la-Fontaine, c'est-à-dire c'est un groupe de jeunes comme ça qui a créé une asso parce qu'ils en avaient marre de s'emmerder clairement dans leur bled. C'est ça un petit peu, vous avez souffert entre potes comme ça, d'un manque de dynamisme peut-être, d'événements. Malgré les moissons rock dont tu as parlé.
Honnêtement, non, on n'a pas du tout souffert parce que on a très vite été impliqué dans le secteur associatif avec un foyer des jeunes dans lequel on s'était impliqué quand on était ado, préadolescent. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à entreprendre des projets. Alors, au départ, ça a commencé par des choses toutes bêtes avec un voyage au ski. Ensuite, on a monté un local musique pour pouvoir nous-mêmes jouer de la musique et aussi l'ouvrir à d'autres jeunes du territoire qui voudraient s'y mettre. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, qu'on a commencé à entreprendre des choses dans notre petite commune et dans notre petit coin de campagne. Et voilà comment on en est arrivé au festival.
Alors l'idée, c'est de promouvoir les artistes locaux et le patrimoine d'une commune chaque année. Donc après Poincé, vous êtes attaqué à Combray, Armaillé, Carbet. Et cette année, c'est Saint-Michel et Chanvaux. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, on vous conseille Google. Vous allez sillonner tout le nord du département comme ça?
Ouais, le canton, alors on ne doit pas dire canton, le territoire de Poincé-Combray est composé, je crois, de 13 communes ou 14, je ne sais plus exactement. Et dont notre idée, en fait, vu qu'on était tous originaires de ce territoire de Poincé-Combray, on s'était dit, après Poincé, on s'est dit, on va aller à Combray, et au fur et à mesure, en fait, on est resté dans ce canton, et si on peut faire les 14 communes, ce sera super.
Alors au programme, à chaque fois, il y a une transformation du bourg, des randonnées gourmandes, concours photo, fanfares, expos, marché de producteurs locaux, théâtre de rue, concerts sous chapiteau, balades culturelles, et si ça se multiplie comme ça, et comme tu le disais, si vous sillonnez un petit peu, et pourquoi pas les 14 communes bientôt, c'est qu'il y avait une attente des habitants, il y a un succès à la rue comme ça, au festival à la rue.
Je sais pas s'il y avait une attente au départ parce qu'il y en avait pas de festival de rue. Même nous, en fait, quand on l'a fait la première année, on n'avait jamais participé à un festival de rue, en fait. Donc on est allé voir les compagnies de théâtre du coin, les groupes de musique. Même nous, on s'était mis à jouer pour tenir une plage, quoi. Et en fait, les gens ont répondu présent à cette première journée. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, ça, c'est quelque chose qui plaît aux habitants du territoire, on va répéter l'événement. Et en fait, en effet, d'édition en édition, à chaque fois, le public est de plus en plus nombreux. Et on a surtout les encouragements de ce public qui nous dit « c'est trop bien ce que vous faites, continuez, quand est-ce que vous venez chez nous, etc. etc. » Et du coup, je pense qu'au départ, les habitants du territoire n'étaient pas demandeurs, mais aujourd'hui, l'événement s'est pérennisé. Je pense que ça les embêterait s'ils venaient à s'arrêter. Et en effet, ils ont envie que ça continue et que l'événement évolue, quoi.
Sauf que pour qu'il y ait cette cinquième édition en juin, il faut trouver du financement. Et pour ça, vous mettez en place une soirée scène ouverte à Poincé, donc on revient aux sources.
Ouais.
Ça sera en avril, on donnera les dates tout à l'heure, et ça sera donc ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer. On peut parler un petit peu des financements. Ça galère ou pas pour mettre en place un festival comme ça
Ça, à la fois, ça galère, oui, parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que sur tout le temps qu'on passe à organiser le festival, il y a 90% qui est consacré à la recherche de ces financements, parce que c'est le nerf de la guerre, quoi. Et qu'on tient à vraiment payer les compagnies à leur juste valeur. Et j'ai oublié ta question.
Est-ce que c'est galère, justement, de trouver ces financements? Est-ce que vous avez une aide des communes? Comment ça se passe?
Et donc, ouais, le budget, il est réparti. Il y a tout d'abord de l'autofinancement grâce à la restauration, à la buvette durant le festival. On fait des démarches d'autofinancement à l'année aussi, du type porte-à-porte, du type vente de crêpes, la soirée qu'on organise à Poincé dans quelques semaines, là. Et on a aussi les collectivités locales qui nous soutiennent à hauteur de ce qu'elles peuvent. Donc on fait avec ce qu'ils nous donnent. Et il y a aussi, on est devenus des pros de l'appel à projet et des dossiers de subvention qui peuvent être proposés par différents organismes comme les banques, comme des structures comme Famille Rurale ou la MSA ou des choses comme ça.
Et donc il y a cette... ce week-end du 10 et 11 avril, le 10 avril, ça se passe au Petit Théâtre à Poincé.
Oui.
Et c'est un apéro-conférence intitulé « L'âge d'or du rock français de 75 à 90 ». Et c'est animé par Christophe Brault, qui est un conférencier musicologue. Comment vous l'avez rencontré?
Alors Christophe Brault, on l'a rencontré précisément, c'était grâce à un gars qui s'appelle Robin Godichaud, qui travaille aussi sur le territoire du Segréen, et qui l'avait eu comme prof à l'école. Et du coup, il nous avait appris que ce mec faisait des conférences de musiques actuelles. Et donc, c'est déjà la troisième fois qu'il vient, en fait, faire des conférences. Donc, la première année, il était venu, il nous avait parlé du reggae. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, il avait parlé du rock, mais plus international. Et donc là, on a décidé de le faire revenir, parce que c'est vraiment quelqu'un qui raconte la musique comme personne. Et il n'y a pas besoin d'être un amateur spécifique en la matière pour apprécier ces soirées-là, en fait.
Oui, ça fonctionne bien, il y a un bon retour à chaque fois.
Ouais. Et puis... Ouais, il y a des bons retours et c'est vraiment des bons moments. Et le gars est tellement passionné qu'on boit ses paroles et ça passe vraiment très vite.
Et le lendemain, samedi 11 avril, donc là c'est à la salle Expert à Poncé, vous organisez une scène ouverte. Mm-hmm. Et là, c'est pas que musical en fait, c'est pas que un bof.
Non, c'est pas que musical. On a lancé ça sur inscription et l'idée c'est qu'il y a une dizaine de créneaux à remplir et on aimerait qu'il y ait un peu de tout, du type danse, musique, théâtre, conte. Si on peut exposer des peintures, des photos dans la salle dans la même soirée, on sera ravis. Et voilà, donc pour le moment ça se remplit petit à petit. C'est plutôt des groupes de musique qui répondent à cet appel. Donc on aimerait bien vraiment que...
Qu'est-ce qu'il vous faut quoi? Des danseurs, des...
Bah là, alors là, il nous faudrait du théâtre et de la danse, ce serait chouette.
D'accord, et jusqu'à quand est-ce qu'on peut présenter notre candidature?
Il reste une bonne dizaine de jours. Et après, si dans la clôture c'était au 11 mars, mais si on n'a pas rempli les créneaux, bien sûr, on ira au-delà de cette date.
Quelques mots sur le festival, donc la 5e édition qui aura lieu en juin, 13 et 14 juin à Saint-Michel et Chambeau. Est-ce qu'on a déjà une idée de la programmation? Est-ce qu'elle est en cours de construction? Il y a une thématique qui se dégage?
Oui, il y a une thématique. La thématique qu'on a choisie cette année, c'était « Ça se cultive ». C'est un thème qui est né parce que, mine de rien, il a failli s'arrêter ce festival parce que c'est que des bénévoles qui l'organisent. Et donc, chacun ayant ses petites histoires personnelles à gauche, à droite... Bah,
on part à l'étranger.
Voilà, par exemple, en Lituanie, je sais pas, comme
par
ça.
Exemple.
Et du coup, ça a failli s'arrêter, mais mine de rien, on a décidé de rempiler pour une année. Et puis, on voulait aussi mettre à l'honneur ce côté rural qui nous tient à cœur et qu'on a envie d'entretenir parce que c'est là où on a grandi. Et ça se cultive, bah, c'est aussi tout le lien avec le spectacle vivant, la musique, la culture de façon générale. Donc ça, c'est le thème qu'on a choisi pour le festival. Et oui, en effet, on a déjà pas mal de spectacles... d'assurés qui sont censés venir. Tu veux des noms?
Bon, par exemple, je sais qu'il y a un concert le samedi soir. Est-ce qu'il y a déjà une...
Ouais, le samedi soir, on a déjà les voleurs de swing qui viennent, c'est sûr. Et on a aussi un spectacle qui s'appelle Manu Nashville de la compagnie Bonobo Twist, qui est basée à Rennes. Et donc, c'est un spectacle musical, ambiance country, rock américaine, tout public.
Puis pour le reste de la programmation, on ira sur alarlibre.wix.com, c'est ça l'intitulé?
Slash à la rue. Ouais, c'est un peu compliqué.
Et si on veut, si on veut s'inscrire pour la scène ouverte du 11 avril,
ouais,
à Poincé, c'est là par le même site internet?
Ouais, sur le site internet, il y a toutes les coordonnées. Et il y a l'email, il y a le numéro de téléphone. Et je pense que sur Google, en tapant Saint-Michel et Chambaud à la rue, on tombe sur le site.
On va essayer alors.
Ouais.
Merci beaucoup Antoine d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Merci pour l'invitation.
Tausend Euro Worte.
c'était Wir sind Helden, pardon Yannick, j'ai bien décorché le nom de sa pause musicale, avec Nur ein Wort, ça veut dire qu'un mot en allemand.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, c'est une conférence cinématographique proposée par Connaissance du Monde. Ce soir, cap sur le Japon, donc en compagnie de Maximilien Daubert. C'est au centre des congrès à partir de 20h30 et c'est entre 5 et 9 euros l'entrée. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Vendredi, dans l'artichaut, Gwen recevait François Baron, technicien son qui travaille au studio Love Island. Au fait, ça ressemble à quoi, une journée de technicien du son?
Ta journée commence à quelle heure? Comment ça se passe? Comment tu travailles? Parce que je pense que ça peut intéresser nos auditeurs, un petit peu le concret de la chose, encore une fois.
Alors les journées de travail, elles commencent en général 2-3 heures avant que l'artiste qu'on accueille arrive. Donc en fonction du type de spectacle, ça peut très bien être 9 heures, ça peut être 10 heures, ça peut être 14 heures, ça peut être 16 heures dans certains cas. Ça dépend vraiment, il n'y a pas spécialement de règles. Ça dépend aussi également de si on s'est nous-mêmes occupé de la préparation du spectacle avant. Donc réception de ce qu'on appelle les fiches techniques, les demandes spécifiques de la pièce de théâtre, du spectacle de danse ou du groupe de musique. La journée commence par, si on ne les a pas eu avant justement, prise de connaissance de tous ces documents, du déroulé de la journée, un petit plan d'attaque aussi pour voir comment on va faire, comment on va dérouler tout ça justement. Et puis voilà, après une fois que la journée s'enchaîne, c'est relativement des automatismes, mettre en place tout pour que l'artiste ou les artistes soient vraiment avec le meilleur confort possible, dans les meilleures conditions techniques. Et après voilà, vont s'enchaîner une phase de réglage technique, une phase où comédiens, artistes ou musiciens vont faire des petites répétitions, des balances ou raccords comme on veut. Et voilà, le peaufinage de toutes les dernières petites choses aussi dans la journée, juste avant le spectacle, pour être sûr que tout se déroule comme du papier à musique, si je puis dire. Le spectacle en lui-même, donc le jeu, comme on appelle ça. Et en général, à l'issue du spectacle, la phase de démontage, rangement, etc. etc. Ce qui peut faire qu'on a des journées qui ont des bonnes amplitudes horaires.
Vous pouvez réécouter la totalité de l'artichaut sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Regard d'ailleurs, suivi de Breakfast Radio à 20h30. Nous, on se retrouve demain à 19h, on parlera des vêtements et du genre avec Christine Barr, en vue de sa conférence à l'École des Beaux-Arts jeudi prochain. Merci à Yann, à Adrien et à Thomas pour la co-préparation de l'émission. Merci à Raoul pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.